Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Antoine Ulster et Bertie Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon, Margot Le Ridon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hue et mise en onde ce matin par Baptiste Lénard. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. C'est Marc Semo qui nous retrouvera tout à l'heure. Il y a quelques jours, après plusieurs années de négociations, une quinzaine de pays d'Asie, dont la Chine bien sûr, a signé un accord commercial de grande ampleur. En effet, le partenariat régional économique global constitue le plus important du monde en termes de PIB. Si ce nouvel accord devrait permettre à tous les participants d'en tirer des bénéfices économiques, c'est aussi, et peut-être surtout, un outil d'influence inédit pour Pékin. Alors comment l'Occident doit répondre à cette inexorable montée en puissance de la Chine dans la région? Comment les États-Unis se préparent à la riposte? Depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, les acteurs s'organisent, notamment du côté de Washington, où on a relancé le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, auquel appartiennent également l'Inde, le Japon et l'Australie. Comment s'opposer à cette puissance chinoise dans cette région indo-pacifique? Et quel rôle aussi pour l'Europe dans ce nouveau défi? On posera la question à Nadège Roland, qui sera avec nous depuis les États-Unis, mais aussi Pierre Grosseur. Avant de les retrouver, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient des quartiers populaires de Madrid et du nord de l'Espagne. C'est Ludovic Lamant qui est journaliste à Mediapart. C'est Mélanie Chalandon qui a recueilli son témoignage.
Bonjour Ludovic Lamant.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Mediapart et vous avez publié il y a quelques jours un long reportage dans les quartiers populaires de Madrid, particulièrement touchés par l'épidémie. Vous racontez cette renaissance des réseaux d'entraide et de mobilisation d'une population qui se sent abandonnée par les pouvoirs publics. Et c'est vrai que l'Espagne est un des pays d'Europe les plus endeuillés par le Covid. On compte à ce jour 43 000 décès et la crise sanitaire a révélé de nombreuses failles. Les accrochages politiques sur la décentralisation par région, la saturation des hôpitaux, des défaillances dans lesquelles l'extrême droite du parti Vox tente de s'infiltrer. Et en mars dernier, le gouvernement de Pedro Sanchez, gouvernement socialiste, avait affirmé que l'épidémie ne connaissait pas les classes sociales. Vous, vous avez constaté que dans les quartiers populaires, notamment dans la capitale, eh bien si, les quartiers populaires sont davantage touchés que le reste du territoire.
Oui, alors effectivement, je ne sais pas si Pedro Sanchez, 6 mois plus tard, ou même aujourd'hui en novembre, dirait la même chose, que l'épidémie ne touche pas du tout, touche toutes les classes sociales de la même façon, parce que ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les quartiers populaires, en particulier en septembre, ont été extrêmement touchés, notamment des latino-américains, des migrants, des populations sans papier, des gens qui travaillent dans l'économie informelle, qui souvent sont trouvés du jour au lendemain sans possibilité du tout de travailler, du coup, qui partagent des petits appartements avec beaucoup de personnes à l'intérieur, etc., et qui souvent n'ont aucune conscience même des gestes barrières qu'il faut adopter, y compris parce que, et ça c'est une des choses que j'ai découverte en allant en reportage là-bas, c'est qu'il y a des gros problèmes de traduction. Il y a des communautés, notamment de personnes du Bangladesh, de Sénégalais, etc., qui ne comprennent pas l'espagnol et qui, en fait, n'ont même pas intégré les gestes barrières basiques.
Et vous racontez justement l'histoire de Mohamed Hossein, ce Bangladais de 67 ans, gérant d'un restaurant, qui est décédé. Alors, c'était pendant la première vague, mais il est décédé après que sa famille eut appelé durant 6 jours les numéros d'urgence sans que personne ne vienne. Et dans ce cas, précisément, il y avait un problème de communication. Sa famille ne parlait pas assez bien espagnol pour qu'elle puisse être entendu et secouru. Et c'est un peu le point de départ, finalement, de votre reportage, l'histoire de Mohamed Hossein.
Oui, exactement. En fait, c'est une histoire qui m'a interpellé et dont plusieurs amis de Madrid m'avaient parlé avant de venir. Et j'ai voulu essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et puis, ce qui est passionnant, c'est que ça a vraiment était le point de départ d'un collectif, d'un mouvement politique qui s'est mis alors à construire un collectif qui s'appelle des interprètes pour soigner et qui consiste à dire la communauté autonome, donc la région de Madrid ou le gouvernement espagnol, donc les socialistes au pouvoir, n'ont pas pris en compte la question de la langue, et puisque les pouvoirs publics ne le font pas, eh bien nous on va essayer de développer un système de traducteurs bénévoles au niveau du quartier en trouvant des voisins pour parler alors trois langues en particulier, hein, le bengali pour les bengladais, le wolof pour les sénégalais, et puis aussi de l'arabe du Maroc, qui sont un peu pour cibler les communautés les plus représentées et qui peinent à parler espagnol. Et en fait, en tirant ce fil de la traduction, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même énormément de collectifs, alors qu'ils font des actions beaucoup plus larges, hein, que ce soit des caisses financières de solidarité, que ce soit des distributions de paniers d'alimentation pour les plus démunis, etc., qui se sont mis en place avec un discours qui m'a surpris, c'est-à-dire de personnes qui n'attendent vraiment plus grand-chose des pouvoirs publics aujourd'hui.
Mais c'est justement ce que j'allais vous demander, parce que vous décrivez effectivement des réseaux très actifs, des gens qui se mobilisent, et en même temps ce sentiment parmi tous les gens que vous rencontrez, comme par exemple Daniel, ce médecin, ce militant de 42 ans, ce même son cloche chez tous qui parle d'une qu'il n'y a finalement plus rien à attendre des autorités, et ce quel que soit l'échelon, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la ville, de la région, du gouvernement fédéral, il y a ce sentiment d'abandon.
Ouais. Alors, effectivement, c'est une des choses que moi j'ai. Alors peut-être parce que j'ai été dans des quartiers populaires très touchés et qui ont vécu des semaines compliquées, mais c'est une des choses qui m'a surpris, c'est que la colère s'exerce à la fois contre la communauté régionale, mais aussi contre le gouvernement national. Alors à Madrid, il faut peut-être raconter que c'est un cas très particulier, puisqu'il y a une guerre politique. Qui est vraiment un cas spécifique à l'échelle de toute l'Espagne, depuis mars, en fait, une bataille sur la gestion de l'épidémie entre les socialistes qui gouvernent avec Unidas Podemos au niveau national et la région qui, elle, est tenue par la droite, le Parti Populaire, en alliance avec Ciudadanos, le Parti Libéral. Et la présidente de la région, Isabel Díaz Ayuso, est particulièrement critiquée, controversée, parce qu'elle dit clairement il faut défendre l'économie. Moi, par exemple, là, les quelques jours que j'ai passé à Madrid, juste pour qu'on ait une idée, ça peut paraître très exotique en France, le couvre-feu commence à minuit, les bars sont ouverts, les salles de cinéma sont ouvertes, etc. Il y a vraiment une idée que on n'est pas obligé de prendre tant de mesures répressives que ça ou restrictives. Et par ailleurs, elle a été aussi très critiquée pour une chose dont on a un peu parlé en France en septembre, qui était ce qu'elle a appelé un confinement sélectif. C'est-à-dire qu'elle a découpé des unités de quartier dans lesquelles elle estimait qu'il y avait beaucoup de circulation du virus, et comme par hasard, en fait, ces unités correspondaient en fait aux quartiers populaires qui sont sentis du coup stigmatisés, montrés du doigt par les autorités, et du coup il y a eu des manifestations alors fin septembre sur ces questions-là.
Oui, donc, cette question a fait scandale effectivement. Est-ce que finalement la mesure de ce confinement sélectif a été appliquée finalement ou pas?
Alors oui, elle a été appliquée, mais très vite contestée par le gouvernement national, puis ça a été en justice, puis en fait elle a obtenu gain de cause, etc. Donc si vous voulez, il y a eu une bataille politico-judiciaire qui a en fait épuisé beaucoup des habitants des quartiers, beaucoup aussi des médecins, des centres publics que j'ai rencontrés, qui en plus expliquent, alors ça c'est peut-être une sensation qu'on a aussi un peu en France, qui explique qu'ils sont absolument pas associés aux prises de décision, et se sentent très loin. Donc le médecin dont vous parliez, Daniel Garcia Blanco, lui, il est vraiment parti dans une expérience beaucoup plus locale, à l'échelle du quartier où il travaille, dans son centre de santé. C'est un médecin du public qui a décidé en fait de faire des réunions de quartier avec des habitants pour expliquer où on en était, des gestes barrières, mais aussi de comment faire pour aider les proches qui vivent dans les immeubles, etc., pour éviter la diffusion du virus, et faire un travail de pédagogie de manière plus horizontale, très loin, effectivement, des institutions. Si on pousse un peu, moi, ce qui m'avait intéressé aussi dans ce reportage, si je peux encore dire un petit mot là-dessus, c'est que moi j'avais couvert ça commence à faire longtemps, ça commence à faire 10 ans le mouvement des indignés en 2011 et à Madrid notamment. Et à l'époque, il y avait vraiment ce sentiment d'indignation, c'était le mot de l'époque, tout le monde parlait de ça et de contestation très fort contre des pouvoirs publics corrompus. Il y avait des affaires politico-financières très lourdes et du coup un mouvement social qui s'était qui avait pris comme ça de manière globale. Là, j'ai le sentiment que les sensations, il y a une colère dans ces quartiers, les gens sont sortis manifester, ce qui n'est pas rien pendant l'épidémie, mais en même temps j'ai senti beaucoup plus de noirceur, beaucoup moins d'espoir qu'il y a 10 ans où on était quand même beaucoup plus sur un agenda constructif, il y avait des revendications pour d'autres manières de faire de la démocratie, pour dénoncer les scandales politiques, etc. Là, il y a vraiment un truc où, bon, les pouvoirs publics, on n'y croit plus trop et donc on va revenir au niveau du quartier pour reconstruire des choses.
Ce parallèle avec le mouvement des indignés qui était né effectivement de la crise financière et puis de l'effondrement de la bulle immobilière en 2008-2009 qui avait durement touché l'Espagne, ce parallèle, il est effectivement intéressant à interroger. Est-ce que les collectifs, les réseaux que vous avez suivis, observés en Espagne aujourd'hui se réclament de l'héritage du mouvement des indignés? Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Est-ce que, vous dites la tonalité a un petit peu changé, mais est-ce que le mouvement des indignés a essaimé jusqu'à aujourd'hui à travers les réseaux qu'on observe actuellement?
Alors, je dirais oui et non. Oui, parce que il y a effectivement beaucoup d'activistes qui ont 40, 45 ans et qui du coup étaient aux avant-postes du mouvement indigné il y a 10 ans et qui en ont retenu des pratiques horizontales, d'assemblées, d'écoute absolument fascinantes, hein, des voisins, des réunions qui durent 2, 3, 4 heures où chacun s'écoute, construit des plateformes d'aide, d'entraide, etc. Tout ça, il me semble, c'est vraiment un héritage du mouvement indigné. Par contre, là, ce qui me semble très différent déjà, c'est la difficulté de se mobiliser physiquement sur les places, dans la rue, évidemment parce que y a l'épidémie et que ce n'est pas possible. Et ensuite aussi parce que moi j'ai vu beaucoup de femmes latino-américaines, parfois sans papier. Et là, clairement, c'était un peu un des chaînons manquants du mouvement indigné d'il y a 10 ans. C'était un mouvement qui restait très blanc, d'étudiants ou de gens diplômés qui trouvaient pas de débouchés professionnels. Là, cette fois-ci, c'est clairement, j'ai passé du temps une après-midi avec un collectif de femmes de ménage latino-américaines, par exemple, qui sont peut-être celles qui sont les plus mobilisées en ce moment à Madrid. Et elles, leur revendication, c'est la régularisation des sans-papiers, des gens qui ont été les plus touchés, disent-elles, par l'épidémie.
Et dans ce cas-là, ce qui est frappant, effectivement, c'est que ces femmes d'ordinaire, femmes de ménage, sans papier, sont particulièrement invisibles dans la société et particulièrement discrètes. Or là, elles s'organisent, elles font entendre leur voix sur la place publique.
Ouais, tout à fait. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'elles ont même été. Moi, je ne savais pas avant d'y aller. En fait, elles ont obtenu des partis politiques de gauche, alors Unidas Podemos et quelques partis régionaux, d'inscrire à l'agenda de l'Assemblée du Congrès des députés une loi pour la régularisation des sans-papiers qui a été alors mise à l'agenda de l'Assemblée puis rejetée. Bon, il n'y a pas eu de majorité sur le texte. C'était en septembre dernier, mais ça prouve qu'elles ont obtenu quand même, alors avec des collectifs antiracistes, etc. Elles ont obtenu une forme de protagonisme qu'elles n'avaient pas du tout il y a 10 ans. Ça fait partie des changements et ça, c'est clairement pas le mouvement indigné. Hein. Ça passe par d'autres mouvements, peut-être le mouvement féministe qui a été très fort ces dernières années et qui a aussi été une initiation pour beaucoup de gens.
Ludovic Lamant, vous vous rendez aussi à Logroño, une localité dans le Pays Basque, une localité qui a fait la une de la presse espagnole au lendemain de la nuit d'Halloween où des saccages de magasins ont eu lieu par une bande de jeunes. Alors, le profil, les motivations des auteurs de ces saccages est encore flou, mais d'après les témoignages que vous avez recueillis sur place, le mouvement d'extrême droite, Vox, le parti Vox, pourrait avoir joué un rôle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelque part ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire aussi la répercussion politique de la crise sociale en Espagne?
Oui, tout à fait. Alors c'est juste à côté du Pays Basque, c'est dans la Rioja, qui est une toute petite communauté autonome, une toute petite région d'Espagne, dont on entend très rarement parler en fait. C'est connu évidemment pour le vin qu'on y cultive, mais sinon ça fait très rarement la une des journaux. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était intéressant d'y aller. Et là, c'est vrai que d'un point de vue politique, les socialistes sont au pouvoir dans cette capitale et également au niveau de la région, de la Rioja, et en plus ils sont au pouvoir au niveau national, on l'a déjà dit. Et clairement, il y a une angoisse, une inquiétude de la part de la classe politique au pouvoir de voir un peu Vox profiter de cette contestation, de cette colère qui prend des formes, on l'a dit, assez violentes. Alors là, ça a pris la forme d'un saccage d'une boutique Lacoste, notamment le samedi 31 octobre au soir, par un collectif de jeunes qui, par ailleurs, se sont filmés sur les réseaux sociaux et donc ont été assez rapidement identifiés.
Mais est-ce qu'on sait si ces jeunes sont affiliés au parti Vox ou à des mouvances d'extrême droite ?
Alors en fait, il y a eu des cas similaires, par exemple à Barcelone ou à Madrid, où il y a eu des affiliations, oui, à des groupuscules d'extrême droite. Là, dans le cas de Logroño, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est absolument pas le cas. Pour l'instant, de ce qu'a dit la justice, l'enquête policière, etc., il n'y a pas eu de lien. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions sur les réseaux sociaux de Vox, mais d'autres groupuscules, qui un peu la situation, participe à alimente un peu la colère, mais reste en retrait. Et ensuite, par exemple, Vox a, dès le lendemain, condamné les violences qui avaient été faites. Donc Vox a à la fois appelé à la manifestation, avec des messages très radicaux. Le lendemain, ils ont condamné les violences, en disant que c'était sans doute le fait de migrants qui étaient de passage, des mineurs, etc., de migrants. L'enquête a montré que c'était absolument pas le cas et qu'on avait plutôt affaire à des jeunes de la ville espagnole qui sont plutôt de la classe moyenne. Donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lien direct entre ces jeunes et Vox, mais on voit qu'il y a un travail de ce parti pour essayer de récupérer cette colère. Et ces jeunes-là sont dans une situation très particulière. Donc, on parle, il y a jusqu'à quelqu'un qui avait 15 ans qui a été arrêté. Donc, on parle de mineurs aussi qui ont fait ce genre de choses. Et c'est une génération qui, on l'a dit, il y a 10 ans, a été confrontée déjà à la crise financière. Donc, peut-être les parents ont perdu leurs emplois ou ont perdu de l'argent à ce moment-là. Et là, 10 ans plus tard, se retrouvent avec une nouvelle crise où on leur dit non seulement que ça va être très difficile de trouver de l'emploi, mais en plus qui rongent toute leur liberté, en particulier d'aller boire des coups dans les bars, d'aller au cinéma, etc. Parce que là, pour le coup, dans le nord de l'Espagne, absolument tout est fermé en ce moment. Donc, voilà, il y a un jeu politique qui est particulièrement dur en ce moment.
Et l'absence de perspective pour la jeunesse espagnole, comme une partie de la jeunesse d'autres pays européens, affaire à suivre. Merci beaucoup, Ludovic Lamont.
Canción de Todo Va Mal du groupe Le Mans, qui a été choisi ce matin par Benjamin Hu. Merci beaucoup à Ludovic Lamont et également à Mélanie Chalandon qui a recueilli son témoignage. Depuis l'Espagne, on se dirige vers la Chine, en tout cas vers la région asiatique. Qui pourra s'opposer à la puissance chinoise ? C'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque la semaine dernière a été signé le deal du siècle, le plus important accord commercial du 21e siècle, rassemblant quelque 30% du PIB mondial et près d'un tiers de la population. Et au cœur de tout cela, évidemment, Xi Jinping.
La région Asie-Pacifique devrait soutenir sans relâche le système commercial multilatéral avec l'OMC en son sein, continuer de promouvoir l'intégration économique régionale et créer la zone de libre-échange Asie-Pacifique à une date rapprochée. La Chine se félicite de l'achèvement de la signature du RCEP et envisagera activement de rejoindre le PTPGP.
Xi Jinping, qu'on entendait à l'instant, c'est à l'initiative de la Chine que les discussions avaient été entamées entre les différentes parties et c'est donc une victoire diplomatique indéniable pour Pékin qui s'est fabriqué là un outil commercial inédit qui devrait lui permettre d'étendre encore son influence dans la région. Alors comment répondre à ce défi ? Que peuvent faire les Occidentaux, les Américains, les Européens ? Et d'ailleurs, faut-il s'en inquiéter ? La puissance chinoise est-elle réellement une menace pour le monde ? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Pierre Grosser d'abord. Bonjour Pierre Grosser.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien des relations internationales, enseignant à Sciences Sciences Po et vous aviez signé chez Odile Jacob il y a quelques temps maintenant, en 2018, l'histoire du monde se fait en Asie. Avec nous également depuis Princeton, Nadège Roland, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes chercheuse sur les questions politiques et de sécurité en Asie-Pacifique au National Bureau of Asian Research. Et je vous remercie doublement parce qu'il est très tôt chez vous du côté de Princeton. Avec nous également, comme tous les vendredis, Marc Semo du Monde. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors on va commencer avec vous, comme on le fait traditionnellement le vendredi, Marc. Parce qu'il y a évidemment des débats chez les experts sur ce que seront les effets économiques réels de cette nouvelle entité commerciale. Il est indéniable qu'il acte en tout cas une nouvelle fois une montée en puissance de la Chine dans la région. Et la question va être maintenant de savoir comment y répondre, Marc.
Absolument. Être ferme avec la Chine... Joe Biden l'a promis en présentant son nouveau secrétaire d'État, Anthony Blinken, et son équipe de politique internationale. Quelques semaines avant, dans un article de Foreign Affairs, il disait que s'il était élu, il voulait créer un front uni avec les alliés des États-Unis pour affronter les comportements abusifs de la Chine. Donc on le voit, les mots sont forts. Alors, à la différence de son prédécesseur, il ne parle pas de la Chine comme d'une ennemie, mais... Il s'inscrit malgré tout dans la continuité de Donald Trump, qui avait mis fin à un certain angélisme américain face à Pékin, aussi bien en matière commerciale, économique que sur le plan stratégique. Alors la Chine, l'autre superpuissance, est une concurrente, une rivale, mais aussi une menace. En 4 ans, elle s'est à bien des égards renforcée, alors que l'Amérique trumpienne affaiblissait son image, et la pandémie de Covid-19 encore... accélérer les choses. Alors maintenant, pour Joe Biden, le défi est de taille. Il doit trouver un juste milieu entre ses accents de guerre froide de la précédente administration et une nécessaire coopération avec Pékin sur les grands défis planétaires comme le climat ou la lutte contre la pandémie. Alors, l'unilatéralisme de l'administration sortante a vu des effets contre-productifs comme le retrait du partenariat transpacifique, hein, qui était justement créé par Obama pour bordurer la Chine. Alors maintenant, qu'est-ce que va faire Joe Biden? On le verra, mais surtout il y a cette peur que dans l'interrègne, il y a aussi des faits accomplis chinois.
Alors évidemment, on va se demander ce que pourrait faire Joe Biden. On va venir bien sûr à cette question qui est centrale, mais d'abord, on va peut-être traverser l'Atlantique pour retrouver Nadège Roland, parce que il y a quand même une question qui se pose, qui est celle de l'effet réel de ce deal du siècle, je le présentais comme ça tout à l'heure. Il y a beaucoup de débats, Nadège Roland, sur ce que seront les effets concrets de ce nouvel accord commercial, qui d'abord, il faut le dire, va mettre beaucoup de temps à se mettre en place. Pour vous, c'est quoi? C'est une vraie révolution sur le plan commercial? C'est l'avènement, au fond, d'une nouvelle entité régionale qui sera le cœur de l'économie mondiale du 21e siècle? Ou au fond, ça va se jouer ailleurs, Nadège Roland?
Ça se veut une entité qui effectivement créera les bases de la puissance économique asiatique au cœur du 21e siècle. Maintenant, le RCEP avec c'est surtout, alors faut peut-être rappeler que c'est pas à l'origine une initiative chinoise, c'était une initiative de l'ASEAN qui a été reprise à son compte par
c'est
la
juste
Chine.
Oui.
Promue par la Chine ensuite.
Enfin, elle était tombée aux oubliettes, vous me l'accordez, Nadège.
Oui, voilà, c'est ça.
Pékin qui a repris tout cela. Hein.
Qui l'a repris à son avantage et l'a promue ensuite. C'est une série d'accords un peu épars. Hein. C'est pas vraiment. Enfin, c'est comme une sorte de liste de différents accords de libre-échange qui ont été mis sous ce chapeau. Donc, on ne sait pas très bien si ça va être coordonné de façon très 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 certaine ou pas pour l'instant. Et puis ensuite, il faut voir si au fil des années qui vont arriver, il y a d'autres accords qui seront mis en place par d'autres entités.
Pierre Grosser, c'est une révolution. Vous qui avez écrit « L'histoire du monde se fait en Asie », elle va se faire demain en grande partie par le truchement de ce nouvel accord commercial, ou faut pas en exagérer la portée ?
Alors, d'une certaine façon, on a, au-delà même de cet accord, un espèce de recentrage économique asiatique qui ressemble un petit peu à celui qu'on avait vu aux alentours de 89-90, au début des années 90, où donc on a l'impression que le moteur de la croissance asiatique n'était plus américain, mais était asiatique. Et c'est encore plus net aujourd'hui, hein, quand on regarde les flux d'investissement, le commerce, qui sont les premiers partenaires économiques des États asiatiques, on retrouve évidemment plus facilement la Chine ou les investissements japonais en Asie du Sud-Est. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui est naturel au-delà même des accords. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième qui est, me semble-t-il, intéressant, c'est que, justement, le vocabulaire d'Asie-Pacifique qui est utilisé par Xi Jinping était un vocabulaire des Américains, des Australiens en 89-90 pour justement ne pas rester à l'écart de cette dynamique asiatique. Et donc, on avait d'ailleurs créé à l'époque une organisation qu'on appelle l'APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, qui d'ailleurs existe encore. Il y a eu une réunion il n'y a pas tellement longtemps. Donc, ce qui est nouveau, finalement, c'est que cette dynamique régionale est maintenant effectivement entre les mains de la Chine, même si, comme ça a été rappelé, l'ASEAN voudrait toujours être au centre de ce système. Alors après, sur le contenu de l'accord, en fait, il y a quand même... pas une différence majeure avec des accords de libre-échange qui existaient auparavant. Notamment, il y existait déjà un accord de libre-échange entre la Chine et les pays de l'ASEAN. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, vous avez la Corée du Sud et surtout le Japon qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est très, très important parce qu'il n'existe pas, pour le moment, d'accord de libre-échange entre Chine, Corée du Sud et Japon. Et évidemment, le poids du Japon et de la Corée du Sud est beaucoup plus important que celui de l'ASEAN. Donc là, ça va vraiment changer le partenariat. En revanche, c'est pas un accord qui touche tous les domaines de la vie économique. Ça touche très peu l'agriculture, pas beaucoup de secteurs industriels, pas les services, etc., etc. Et surtout, il n'y a pas l'Inde qui s'est retirée des négociations, alors qu'évidemment, si l'Inde avait été dedans, ça aurait été vraiment un coup magistral.
Et oui, parce qu'évidemment, l'Inde, d'une certaine manière, est au cœur du front anti-chinois ou anti-Pékin qui est en train de se constituer. Nadège Roland, pour reprendre un peu ce que disait tout à l'heure Marc Sémo en ouverture d'émission, qu'est-ce qu'il faut attendre de Joe Biden? Parce que il faut se souvenir que au départ, avant cet accord commercial avec ses 15 partenaires asiatiques, on a une première initiative qui, elle, vient de Washington. C'est-à-dire qu'au début des années 2010, on a des États-Unis qui avaient envisagé de mettre en place un accord de partenariat commercial dans la région. Tout cela a été abandonné depuis. Est-ce que cette perspective pourrait revenir sur le devant de la scène? Est-ce qu'un Biden pourrait chercher précisément à construire un nouvel accord dans la région Indo-Pacifique, et j'utilise l'expression à dessein, peut-être qu'on y reviendra, pour contrer justement cette montée en puissance chinoise? Est-ce que c'est déjà un bruit que l'on entend du côté de Washington?
Pas dans sa forme telle qu'elle a été promue en 2010-2011, qui était le partenariat transpacifique ou TPP, parce que il a été rejeté à la fois par les républicains et par la partie la plus à gauche du Parti démocrate. Clinton avait fini par ne plus en parler et du coup il est tombé en désuétude depuis quelques années. Et à mon avis, il ne reviendra pas au devant de la scène, en tout cas sous cette forme-là. On est quand même avec Biden, probablement dans une Amérique qui va chercher à protéger ses intérêts beaucoup plus et proposer un accord de libre-échange de la dimension de ce dont on parle là. Ça risque de créer pas mal de soucis en interne, sachant qu'on a un Sénat probablement totalement républicain aussi, donc ça risque de ne pas passer. En revanche, est-ce qu'il va y avoir un autre format, quelque chose de différent? Il me semble que ça fait partie des discussions, c'est-à-dire que non pas être anti-Chine, mais parvenir à un équilibre des puissances, c'est dans tous les domaines, et le domaine économique est particulièrement important. Donc c'est un outil dont ils vont sans doute se servir aussi. Sous quelle forme, c'est à voir.
Pierre Grosser, qu'est-ce que vous voyez justement comme changement à venir avec l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche? Parce que évidemment, l'arrivée de Trump a marqué le lancement de cette guerre commerciale absolument sans précédent à l'encontre de Pékin. Tout laisse penser d'ailleurs qu'elle va se poursuivre avec Biden. Alors, Alors peut-être que dans la forme, son administration fera les choses de manière, disons, plus traditionnelle, mais enfin, il n'y a pas de raison que tout cela change. Vous voyez des évolutions importantes à attendre avec Biden dans la manière dont les États-Unis font face à la montée en puissance de la Chine, Pierre Grosser?
Alors le cas de Trump était bizarre parce que il a effectivement mené une guerre commerciale dont l'objectif n'était pas vraiment de changer les pratiques chinoises, notamment sur leur marché intérieur. Le coût pour les États-Unis a été quand même relativement important, notamment par exemple pour le secteur agricole. Et donc on a l'impression que cette méthode n'est sans doute pas la meilleure, surtout quand vous la menez de façon isolée, sans mettre par exemple les Européens dans la boucle, ce qui évidemment pose un certain nombre de problèmes. Donc moi je suis pas certain qu'il mènera une guerre que la nouvelle administration mènera une guerre commerciale de ce type-là. Je pense qu'elle va essayer de faire pression sous d'autres formes pour essayer de changer un certain nombre de pratiques chinoises, d'autant plus que tous les grands discours sur le fait qu'on dépendrait moins maintenant de la Chine, qu'il faudrait essayer de relocaliser la production, etc., c'est quand même assez peu réalisé, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un certain nombre d'investissements qui sont plutôt partis vers le Vietnam que vers la Chine. Le Vietnam a beaucoup profité de tout cela, mais en même temps vous avez des entreprises américaines qui continuent de vouloir aller en Chine. Donc si vous voulez, le fait de séparer les deux n'est pas possible. En revanche, comme ça a été dit, hein, un grand accord multilatéral, à mon avis, c'est assez peu imaginable. En revanche, dans les négociations avec la Corée du Sud, le Japon, pour lesquels il y a déjà tout un tas d'accords commerciaux, je pense que l'attitude des Américains sera beaucoup plus souple que celle de Trump qui s'approchait du racket, hein, c'est-à-dire en gros on vous protège, donc ouvrez vos marchés, faites ce que l'on veut d'un point de vue commercial. Mais je rappelle juste un petit rappel historique, je suis désolé, c'est assez
compliqué, quand on est historien, on peut pas y couper, hein.
Le vrai problème des Américains, c'est qu'ils avaient déjà eu ce type de problème dans les années 80 avec le Japon, c'est-à-dire un déficit commercial tout à fait important, l'impression que le Japon jouait pas complètement dans les règles, mais on pouvait faire pression sur le Japon parce que c'était un allié. Le gros problème avec la Chine, c'est que les moyens de pression sont en fait extrêmement faibles pour faire changer les comportements économiques, et notamment les comportements économiques internes, par exemple sur les subventions à des entreprises d'État, à partir du moment où les entreprises d'État font partie complètement du système, et de plus en plus partie du système ces derniers temps.
Oui, et d'ailleurs c'est peut-être précisément parce qu'on a du mal à avoir des leviers sur Pékin qu'on est en train peut-être de construire justement ces leviers. Je pense à ce qui s'est passé début octobre quand le secrétaire d'État américain s'est rendu à Tokyo pour relancer le dialogue quadrilatéral avec le Japon, l'Inde et l'Australie, le fameux Quad pour Quadrilateral Security Dialogue. Mike Pompeo y a dénoncé l'activité sournoise de la Chine dans la région Indo-Pacifique. On va voir justement jusqu'où est-ce qu'on peut imaginer que ça peut constituer un levier, en tout cas une capacité d'influence auprès de Pékin. Mais d'abord, Marc Semo, vous vouliez réagir, Marc?
Oui, justement, pour aller au-delà de l'économie sur ces questions stratégiques à propos justement du Quad, c'est-à-dire quand Joe Biden parle de ce front uni avec les alliés des États-Unis pour affronter les comportements abusifs de la Chine, qui sont-ils? Alors, est-ce que c'est juste le Quad? Est-ce que le Quad peut aller au-delà de questions strictement économiques? Et deuxièmement, qu'est-ce que peuvent faire les États-Unis? Qu'est-ce que ça va faire par rapport aux dossiers qui sont chauds, les Ouïghours, Hong Kong, et surtout les menaces en mer de Chine méridionale face à Taïwan?
Alors, on va laisser pour l'instant les questions de droits humains, même s'ils sont importants, mais du point de vue sécuritaire, Nadège Roland, il a raison, Marc Semo, regardons ce que peut faire ou pas Washington. Il y a ce fameux Quad là qui est relancé. D'abord, peut-être faut-il, Nadège Roland, nous rappeler un peu ce qu'il y a derrière. Et puis, les autres candidats, au fond, à ce front anti-Pékin qui est en construction, Nadège Roland.
Alors traditionnellement, en fait, Washington s'appuie sur son système d'alliance en Asie de l'Est, donc Japon, Corée du Sud, Philippines, plus tellement depuis qu'ils sont beaucoup plus pro-Pékin qu'auparavant.
Corée du Sud qui ne fait pas partie hein, du fameux Quad.
Du Quad, hein. Non. Et justement, en fait, voilà, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces alliances traditionnelles, mais il y a aussi une recherche de nouvelles coalitions qui ne sont pas des alliances, mais qui donnent autant de poids en fait à une coopération très très poussée sur les domaines de sécurité. Donc le Quad, là c'est pareil, c'est une idée japonaise au départ, à la fin des années 2000, qui a été tombée en désuétude pendant quelques années, reprise par Trump en 2017, pour essayer de coordonner ou au moins d'avoir un dialogue sur ces questions de sécurité en Asie avec, comme vous l'avez dit, le Japon, l'Inde et l'Australie, qui sont vraiment les partenaires maritimes et démocratiques dans la région. Ensuite, bien sûr...
Partenaires maritimes, c'est important parce que l'essentiel au fond du Quad, c'est justement constituer cette force maritime en réalité.
Voilà, donc ça s'inscrit en fait dans une stratégie qui est appelée la stratégie Indo-Pacifique. Donc on n'est plus dans les années 2010 maintenant où en fait la compétition se jouait ou était vue dans la carte mentale essentiellement autour du Pacifique, donc sur les deux rives. Là en fait il y a une connexion vers l'océan Indien du fait de la poussée chinoise aussi dans cette zone-là et où on considère tout ce théâtre comme interconnecté. Et donc on retourne un petit peu dans l'esprit à une conception assez géopolitique de la région, avec donc les États-Unis qui tentent de maintenir cette sorte de coalition de puissance maritime pour pousser contre la poussée continentale de la Chine à travers les routes de la soie notamment, et essayer d'équilibrer en fait cette expansion de la puissance chinoise sur le continent par une présence plus importante sur différents points maritimes.
Oui, je vous en prie, poursuivez si vous le souhaitez. Et
donc le Quad en fait s'inscrit dans cette volonté de développer la stratégie Indo-Pacifique dans un format plus souple. Hein, on est là sur un dialogue qui se traduit parfois par des exercices militaires conjoints, mais qui est aussi une sorte de maintien d'une coopération sur le renseignement, sur les enjeux de la région, etc. Donc c'est assez flexible. Donc quand on pense au futur de cette région, il est possible que ce format-là puisse être peut-être étendu à d'autres partenaires, et c'est là que les Européens pourrait éventuellement en faire partie ensuite, justement du fait que ce n'est pas un format très strict et pourrait être adapté assez facilement finalement.
Alors avant de voir justement comment pourrait participer l'Europe à tout cela, Pierre Grosser, c'est vrai qu'il faut s'interroger sur jusqu'où, en tout cas dans la région, on peut penser l'extension de ce front anti-Pékin. Parce que pour revenir sur ce fameux dialogue quadrilatéral, donc États-Unis, Japon, Inde et Australie, il faut se souvenir qu'en 2008, l'Australie avait décidé de se retirer de ce fameux Quad en misant sur un renouveau des relations avec Pékin, avant finalement, à peu près 10 ans plus tard, de le réintégrer. Mais cet atermoiement de l'Australie, elle pose la question précisément de cette limite de ce front anti-Pékin. Jusqu'où il vous semble que les pays de la région sont prêts à s'engager dans cette opposition à la Chine, sachant que quand même tout cela a un prix en réalité. Pierre Grosser, notamment.
Il y a un prix. Hein, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Australie. En ce moment, les relations sont assez épouvantables et le problème de l'Australie, c'est l'impression des ingérences, pas l'impression d'ailleurs, la réalité des ingérences chinoises. C'est ça tout le problème, c'est-à-dire que le Japon a son propre agenda à l'égard de la Chine, l'Inde évidemment, notamment en ce moment avec les tensions aux frontières, a son propre agenda avec la Chine, et l'Inde par exemple est dans des organisations internationales de poids, les BRICS ou l'Organisation de coopération de Shanghai avec la Chine et la Russie. Donc vous avez des logiques qui sont différentes. Ce qui est très notable quand même ces derniers temps, vous avez parlé de la sortie un peu de l'Australie de cette organisation, qui est pas une vraie organisation d'ailleurs, hein, qui est une espèce d'alliance assez lâche. Ce sont le renforcement des liens bilatéraux entre chacun de ces éléments, c'est-à-dire que entre l'Inde et l'Australie, entre l'Australie et le Japon, vous avez de plus en plus de liens. Et ça, c'est très, très, très important. Et un des symboles, ça a été la participation des Australiens aussi aux opérations, aux exercices militaires navals Malabar cet automne. Bon. Donc, voilà. Mais ce qui est important, c'est que quand même chacun a aussi son rapport personnel avec la Chine, son agenda par rapport à la Chine, et la volonté aussi de créer non pas d'autres routes de la soie, mais d'autres formes d'infrastructures et d'investissement, mais jusqu'en Afrique d'ailleurs, qui soit un peu alternatif à la Chine.
Mais alors donc concrètement, Pierre Grosser, oui, mais alors. Bien sûr. Qui vous voyez comme candidat pour participer à ce fameux quad, même si j'entends bien qu'au fond c'est pas une entité très formalisée, mais quand même ça risque de l'être de plus en plus. On a qui? On imagine la Corée du Sud, peut-être l'Indonésie, le Vietnam. Qui vous voyez comme candidat pour participer à tout ça?
Alors c'est là où effectivement on peut supputer. Il y a d'abord eu du Quad Plus, par exemple des réunions de Quad Plus sur la question de la Covid, c'est-à-dire que là c'était pas par rapport à la Chine, mais donc voilà à l'échelle régionale pour discuter de ces questions-là. Après, ce que vous avez, c'est par exemple des pays comme l'Indonésie et des pays comme la France qui ont des liens très importants avec l'Australie et avec l'Inde, et donc des espèces de trilatérales qui existent, donc où on en a des espèces d'appendices. Vous avez les Britanniques qui sont de plus en plus présents aujourd'hui, c'est-à-dire que le système de renseignement qui était né au début de la guerre froide avec les États-Unis et les pays du Commonwealth blanc et l'Angleterre qui s'appelait Five Eyes est en train de devenir Six Eyes avec le Japon. Vous avez un rapprochement très important et un accord commercial entre Britanniques et Japonais. On a l'impression d'une nouvelle alliance entre l'Angleterre et le Japon comme en 1902. Donc vous voyez, les Français, les Anglais sont pas tellement loin. Les Allemands viennent de faire d'annoncer une stratégie Indo-Pacifique. L'autre possibilité, si vous voulez, à part cette agrégation de pays, c'est finalement une des thématiques quand même de Biden, c'est de regrouper les démocraties. Ce qui était une idée en fait des années 2000, mais Biden est un homme aussi des années 2000 et son entourage est des années 2000, de faire une espèce de ligue des démocraties. Et donc une hypothèse qui traîne depuis un moment, enfin depuis quelques mois, c'est une espèce d'expansion du G7 où on mettrait en plus du G7 l'Australie, l'Inde et la Corée du Sud. C'est-à-dire qu'il y aurait un D10, un démocratie 10. Et donc, c'était d'une certaine façon ce que Trump, je crois, essayait d'imaginer, parce que normalement, le G7 devait avoir lieu aux États-Unis cette année. Mais comme ça devait avoir lieu à cause de la Covid et des problèmes assez tardivement, personne n'a voulu aller à une réunion qui aurait été qui aurait interféré dans les élections américaines. Mais donc ce D10 avec des démocraties, donc le G7, donc européen, plus le Japon, plus les États-Unis et le Canada, plus l'Australie, plus l'Inde et la Corée du Sud, je pense que c'est une idée qui traîne quand même beaucoup à Washington, parce qu'il y aurait aussi cette idée qu'on est dans un combat idéologique.
Alors, vous avez mentionné notamment, Pierre Grosser, le fait que l'Allemagne avait désormais une stratégie indo-pacifique. Je pense que les auditeurs seront intéressés de savoir ce qu'il y a justement derrière tout cela. Mais avant, pour poursuivre un tout petit peu Nadège Roland, Pierre Grosser nous a dessiné ce que pourrait être au fond ce front anti-Pékin dans les années à venir. Du côté chinois, de toute évidence, c'est quelque chose qui plaît pas beaucoup. D'ailleurs, l'initiative de début octobre de Mike Pompeo pour relancer ce dialogue quadrilatéral a pas du tout été apprécié. La presse officielle a parlé, je cite, d'un regroupement idéologique digne de la guerre froide visant à contenir la Chine. Quand on regarde les analyses du côté de Pékin, on se dit que en réalité l'ambition de Washington, c'est tout simplement de construire, là aussi je cite une formule qu'on utilise dans la presse officielle chinoise, de construire une nouvelle OTAN asiatique au service des Américains. Est-ce qu'il n'y a pas là le risque que finalement ce front anti-Pékin qui est en train de se construire agace prodigieusement Pékin et qu'il débouche vers une militarisation encore plus forte de la zone, sachant que en la matière, ça fait quand même déjà plusieurs années qu'on est déjà sur une dynamique de militarisation extrêmement inquiétante.
Oui, alors effectivement, ce sont des développements qui sont pas vus d'un très bon œil à Pékin, comme vous le dites très bien. Il faut aussi peut-être repenser à ce qui s'est passé dans les dernières décennies, parce que si on en arrive à ce moment précis, c'est parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de choses que la Chine a faites avant d'avoir cette réaction de différents partenaires américains dans la zone. Hein. C'est pas parce que Trump décide qu'il faut revitaliser le Quad que tout d'un coup tout le monde commence à se dire oui c'est une très 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 bonne idée, on va faire ça. C'est aussi parce que la Chine a quand même s'est développée, à moderniser son appareil militaire, à pousser un peu plus dans ses approches maritimes, fait des actions très agressive sur le Japon, sur la mer de Chine du Sud, donc mer de Chine de l'Est, mer de Chine du Sud.
Vous faites référence, on va le préciser, à plusieurs choses. D'abord, effectivement, cette tendance de Pékin à récupérer des îlots qui sont pourtant disputés, à les remblayer, à y installer des bases militaires éventuellement. On a vraiment un jeu de go là qui est en train de se jouer dans cette région-là, avec notre notamment les États-Unis qui, eux, ont une présence militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui. On a vraiment un tablier de go là qui est en train de se monter, absolument incroyable. Absolument. Et la Chine est en train de prendre le dessus. Peut-être pas encore, mais c'est en voie.
En fait, c'est bien l'ambition qui est de plus en plus visible aussi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'ambition a sans doute été présente, mais elle était limitée du fait des capacités chinoises. Là, la modernisation s'est poursuivie sur un rythme très très régulier, avec un budget qui est en augmentation chaque année et qui commence à avoir des effets très très visibles sur les équilibres militaires et stratégiques de la zone. Dans la région, il n'y a aucune force militaire qui est au niveau de la puissance militaire chinoise aujourd'hui. Donc vous voyez bien que ces différents pays pris tout seuls face à ce géant qui se modernise, qui a des ambitions qui sont de plus en plus claires d'expansionnisme et d'agressivité, se disent bon, nous tout seuls on peut pas faire grand chose.
Oui, mais justement, avec les États-Unis en face pour l'instant, on a déjà Roland, la marine américaine de surcroît avec ses alliés dans la région, l'Inde, le Japon et l'Australie. Pour le moment, elle arrive encore à contenir la marine chinoise. Oui. La question est jusqu'à quand, mais pour le moment, le rapport de force est encore en faveur de Washington. On est d'accord.
Oui, on est d'accord. Oui. Maintenant, bien sûr, la Chine joue sur son terrain. La marine américaine doit être déployée de l'autre côté du Pacifique. Mmh. Sur une carte, ça a l'air tout près, mais en fait, ça prend beaucoup de temps pour déployer ces forces-là dans la zone. Et c'est pour ça aussi que ces points d'appui et ces alliances sont extrêmement importantes, avec des prépositionnements de forces au Japon, en Corée du Sud notamment, quelques-unes en Australie. Mais donc là, vous voyez en quoi, en fait, essayer de trouver des solutions de partenariat de sécurité dans la zone est extrêmement important pour éviter que la Chine ne prenne la précédence et ne finisse par limiter totalement l'accès de cette zone maritime aux forces étrangères.
Marc Semo et puis ensuite Pierre Grosser, et je voudrais qu'on évoque la question de l'Europe, savoir comment l'Europe peut se positionner dans cette nouvel antagonisme. Marc Semo.
Oui, alors justement, entre les deux, il y a cette Chine qui montre ses muscles dans la région, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre champ de bataille pour la Chine, qui est celui des organisations internationales et notamment du système onusien, où aujourd'hui la Chine est massivement présente, contrôle un nombre croissant, je crois une dizaine d'agences des Nations Unies. Elle investit massivement dedans. Elle est la plus grande contributrice pour les opérations de maintien de la paix. Et surtout, il y a aussi un jeu sémantique, c'est-à-dire que les mots n'ont pas le même sens. Le multilatéralisme dont les Chinois parlent n'est pas tout à fait celui qu'on connaît. C'est une affirmation de la puissance chinoise. Il y a notamment sur le terrain des droits de l'homme un blocage par rapport à tout ce qui peut déranger. Donc est-ce que c'est pas là aussi un endroit où cette coopération face à la Chine est nécessaire et urgente?
Pierre Grosser.
Oui, bien sûr, hein, ça c'est un des grands enjeux, c'est-à-dire qu'on en gros on a construit une maison plutôt occidentale au départ avec les organisations internationales, même si le président Roosevelt avait fait venir la Chine, mais enfin à ce moment-là c'était la Chine nationaliste et on pensait pas que elle développerait un discours alternatif et surtout qu'elle monterait en puissance comme elle est montée. Donc bien entendu c'est un combat terrible, mais le problème si vous voulez c'est que on n'est pas, c'est toujours la même chose. chose. On n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a quand même 193 États, donc ce sont des négociations, par exemple pour des élections, hein, qui sont difficiles. Et nous avons, il faut l'avouer aussi, hein, fait pression dans le passé pour faire élire des gens qui nous soient favorables, voire des gens de nos pays. La Chine utilise d'autres moyens, parfois des pressions plus dures pour effectivement faire élire les gens qu'elle souhaite. Et l'enjeu à deux mains, à mon avis, c'est effectivement cette question du PKO, c'est-à-dire le Department of Peacekeeping Operations, qui est tenu par la France depuis assez longtemps. Et comme les Chinois sont de plus en plus présents, un rôle de plus en plus important, et commencent même à faire des études de la doctrine sur les opérations de maintien de la paix, si la Chine dans les mains les opérations de maintien de la paix, ça aura des enjeux tout à fait considérables.
Sachant qu'elle a déjà pris un nombre effectivement de directions au sein des Nations Unies.
Là, si vous voulez, je pense que c'est un jeu qui est vraiment différent que le jeu, tout à l'heure vous avez évoqué le jeu de Go ou autre. Là, fondamentalement, si vous voulez, les Chinois considèrent que la région, c'est eux qui doivent la dominer, que c'est l'équivalent de doctrine Monroe des Américains au début du 19e siècle, alors que nous, si vous voulez, on considère et que pour le moment, c'est les Américains qui sont présents, alors ils ont rien à y faire, hein, c'est ça la vision chinoise, alors que nous, on a l'impression d'une espèce de bloc asiatique hostile, un peu comme l'avait constitué le Japon dans les années 1930, et donc ça rappelle des mauvais souvenirs, et les Américains n'ont pas du tout envie de se faire expulser, et nous montrons notre solidarité avec justement cette politique indo-pacifique, et d'autant plus que nous avons, nous Français, des intérêts dans la région, notamment dans le Pacifique Sud.
Alors justement, j'en profite, Pierre Grosser, et puis si je vous passerai la parole, Nadège Roland, juste après, mais vous nous disiez tout à l'heure que l'Allemagne avait effectivement mis en place une stratégie dans l'espace indo-pacifique, parce que nous, évidemment, en France, on a une conscience assez vive de ces enjeux, mais on le comprend, parce qu'on a des territoires outre-mer, on a des zones économiques exclusives dans la région, donc c'est évidemment une priorité pour Paris, mais on est en fait une exception au sein de l'Union européenne. J'étais frappé de vous entendre, Pierre Grosser, que l'Allemagne a désormais une stratégie indo-pacifique bien à elle. Et qu'en est-il de l'Europe ? Parce qu'il y a aussi une stratégie européenne commune pour contrer la Chine dans cet espace-là. Pierre Grosser.
Oui, il y a de plus en plus un consensus européen que la question chinoise est importante et qu'il faut avoir une politique indo-pacifique. Alors évidemment, c'est un consensus qui est difficile à construire. Je rappelle que le vocabulaire d'indo-pacifique est quand même assez tardif en France aussi. Hein. Alors, de toute façon, il est tardif pour tout le monde, puisque c'est seulement depuis le milieu des années 2000 qu'on en parle. Mais c'est seulement depuis le président Macron qu'on a officiellement, si vous voulez, une stratégie indo-pacifique articulée, répétés dans les forums régionaux, etc., etc. Les Britanniques sont en train d'en construire une aussi, donc l'Union européenne y pense et l'Allemagne le fait. L'idée, c'est la grande question, c'est que pour l'Union européenne, il y a aussi un aspect, j'allais dire symbolique, c'est de dire aux Américains, voilà, nous prenons en compte des intérêts globaux comme vous, nous sommes avec vous pour protéger la liberté du commerce, la liberté de circulation des navires, etc., etc. Et en même temps, comme nous vous assistons, nous sommes avec vous sur les questions face à la Chine, sur les questions asiatiques, eh bien, soyez aussi en partie avec nous sur les questions américaines, tout en montrant qu'on a notre politique et notre stratégie de l'Union européenne. Pas sans les Américains, mais avec les Américains.
Nadège Roland, est-ce que vous pensez que c'est la bonne position du côté de l'Union européenne que celle, au fond, d'affirmer ce lien avec les États-Unis, au nom d'ailleurs de valeurs de liberté et démocratie que nous partageons? Ou est-ce que vous pensez qu'on aurait peut-être aussi intérêt à conserver un certain lien avec Pékin, parce que derrière tout cela, une fois encore, il va y avoir un coût économique? Est-ce que l'Europe n'aurait pas plutôt intérêt, Nadège Roland, au fond, à commencer à prendre le lead d'un nouveau camp des non-alignés? Je fais la référence encore une fois exprès à une époque révolue qui est celle de la guerre froide. Est-ce qu'au fond, l'Europe n'a pas plutôt intérêt à construire cette troisième voie et prendre le lead de ce camp des non-alignés, peut-être? Nadège Roland.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Je pense qu'en fait, c'est ce que l'Europe essaye de faire, finalement. Elle est un petit peu Elle n'a pas envie d'être prise au milieu de cette compétition entre Chine et États-Unis. Comme vous l'avez rappelé, l'Europe a énormément, les pays européens, l'Union européenne ont énormément d'intérêts économiques et donc ne veulent pas mettre ça dans la balance en se positionnant de façon très 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 claire contre les ambitions de Pékin. Ceci dit, rappelons que l'Europe a qualifié tout de même la Chine de rival systémique, donc sans aucune ambiguïté sur les défis que pose la puissance chinoise sur le modèle politique qui est proposé, qui est en opposition totale avec valeurs et intérêts européens. Maintenant, je pense que la prise de conscience de l'Europe est comme toujours venue un petit peu plus tardivement qu'aux États-Unis. Donc là, on est vraiment dans une phase de prise de conscience, prise en compte de ces enjeux et de peut-être réflexion sur les différentes options qui sont à disposition. On entend beaucoup parler d'autonomie stratégique en Europe actuellement. Il faudra voir si elle a une composante aussi militaire de sécurité, peut-être dans des aspects de sécurité non traditionnelle plutôt que de déploiement de forces militaires parce que nos capacités sont limitées. Ensuite, il y a d'autres choses qui sont en train d'être considérées en Europe, notamment essayer de ne pas de ne pas considérer que l'Asie se résume seulement à la Chine et de bien prendre toute la région en compte et de développer peut-être une présence et des partenariats avec les autres pays, toujours dans ce même esprit d'équilibre des puissances.
Pierre Grosser, il nous reste encore une petite minute, peut-être une dernière intervention, et en particulier s'agissant de cette question du positionnement de l'Europe. Vous nous disiez que les pays ont désormais des visions claires de la stratégie qu'il convient d'avoir face à cette montée en puissance chinoise dans cet espace indo-pacifique, mais tout cela se fait de façon désordonnée. Il y a la France d'un côté, l'Allemagne de l'autre, la Grande-Bretagne maintenant qui nous quitte, mais est-ce que vous pensez qu'on est en capacité d'avoir une position commune et jusqu'où est-ce qu'il faut jouer l'affrontement avec Pékin ? Pierre Grosser, en quelques mots.
Oui, d'abord la stratégie indo-pacifique n'est pas du tout présentée comme une politique d'affrontement avec Pékin. Hein. C'est de dire que voilà, nous, c'est une région qui est importante pour nous, pour notre santé économique, pour les équilibres du monde, etc., etc. Donc le but n'est pas, si vous voulez, d'être anti-chinois. À côté de cela, effectivement, il y a quelques divisions sur la Chine dans l'Union européenne, mais il faut voir qu'elles sont d'une certaine façon moins importantes que nos divisions sur d'autres questions beaucoup plus proches que nous. Et tout à l'heure, Nadège Roland rappelait les questions de moyens, eh bien, on a quand même les mains assez pleines hein, entre le Moyen-Orient, la Russie, l'Afrique, etc., etc. Ouais. Et donc, évidemment, l'Indo-Pacifique ne peut pas être une priorité.
Affaire à suivre, de toute façon. On reviendra évidemment forcément sur ce sujet. Merci infiniment, Nadège Roland, d'avoir été avec nous depuis Princeton. Vous pouvez désormais retourner peut-être au lit pour redormir un petit peu. Il était très tôt. Merci de vous être levé si tôt. Pierre Grosser, merci également. L'histoire du monde se fait en Asie. C'était chez Odile Jacob. Tiens, un tout dernier mot, et vous allez d'ailleurs peut-être être intéressé par tout cela. Nous sommes en partenariat avec le Best of 2020 de Courrier International et on retrouve justement Virginie Lepetit. Bonjour Virginie Lepetit.
Bonjour Florian.
Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de Courrier International et vous êtes avec nous justement à l'occasion de la sortie de ce Best of 2020 dont Culture Monde est partenaire. Je vous en remercie d'ailleurs. Dans ce recueil qui rassemble les articles les plus marquants de la presse étrangère, la question est, Virginie, est-ce que vous êtes parvenue à traiter d'autres informations que celles liées au Covid ?
Alors, c'est la question qu'on s'est posée en sélectionnant les articles. On a choisi de ne pas éluder le sujet, mais de le raconter à travers quelques histoires emblématiques et un petit peu décalées. Alors, par exemple, il y a l'histoire de l'Atalanta, le club de foot de la ville de Bergame en Italie. Un club qui a vécu une de ses plus belles saisons alors que la ville, elle, était submergée par l'épidémie. Et le journaliste de CT, le supplément de Corriere della Sera, a choisi de le raconter dans un journal de bord d'une façon très personnelle, très touchante. Et il y a aussi ce texte du quotidien belge des Standards qui raconte comment la pandémie a mis à mal le bavardage, les conversations légères sur la pluie et le beau temps et qui sont finalement indispensables.
Mais vous avez également, Virginie, décidé de mettre en valeur d'autres articles et d'autres qui concernent précisément, qui ne concernent pas la pandémie de Covid-19.
Oui, alors il y a par exemple ce récit complètement fou paru dans le Mainichi Shimbun, qui est un quotidien japonais. Ce quotidien de Tokyo, un journaliste raconte, pendant un mois, il a cohabité avec Hikari, une intelligence artificielle, présentée comme une compagne, et au fil du temps, une relation s'est nouée entre lui et Hikari, au point que cette intelligence artificielle a fini par lui manquer quand l'expérience a pris fin.
Et puis il y a aussi cette histoire incroyable d'un père qui fait la connaissance de ses enfants adolescents, puis de leur mère.
Oui, alors c'est un des récits de Modern Love, la chronique du New York Times, que Courrier International traduit chaque semaine en français. Et cette histoire, moi, elle m'a beaucoup rappelé le film québécois Starbuck. Donc il s'agit d'un donneur de sperme qui part à la recherche de ses enfants, qui les rencontre, qui fait la connaissance de leur mère. Et en fait, je vous laisse découvrir le dénouement dans le best-of.
On va la retrouver dans le best-of. Et est-ce que malgré la diversité des sources et des récits, vous discernez quand même un fil rouge dans ce best-of ?
Oui, une évidence s'est imposée en fait parce que tous ces textes parlent des liens qui nous unissent ou alors des liens qui nous manquent. Je pense que la pandémie a mis en lumière qu'on avait vraiment plus que jamais besoin des autres. On ne peut pas résumer la vie aux gestes barrières et aux décomptes. Et c'est ce que raconte aussi la presse étrangère.
Eh bien, merci infiniment Virginie Lepetit, ces articles et bien d'autres à lire, à retrouver dans le Best of 2020 de Courrier International, en vente chez votre marchand de journaux, à retrouver aussi sur le site de Courrier International.